Georges Anglade, bonjour.
Bonjour, Franz Duval.
C'est un plaisir de vous retrouver pour la discussion de ce 34e hebdo.
Oui.
Vous revenez à un sujet qui était déjà en discussion il y a de cela...
Trois semaines à peu près.
C'est les boules de l'État. Cette fois, c'est la prise 3. C'est les missions structurelles de démocratie et de développement de l'État. Et c'est une obsession chez vous, les boules de l'État, Georges Anglade.
Non, je reprends. Ce n'est pas une obsession, c'est une nécessité. Bonjour, auditeurs, auditrices de Magic 9. Un plaisir de vous retrouver donc en ce jeudi 6 mars au matin. Et pour ce 34e hebdo qui a paru mardi, le 4 mars, dans le Nouvelis. Nous revenons, vous vous rappelez, nous avions... commencer l'année en gardant la gouvernance et en disant que sur la gouvernance, nous allons étudier ce qu'il y avait de plus important dans la gouvernance, la présidence en Haïti. Parler de gouvernance en Haïti, c'est commencer par parler de la présidence. Et nous avons mis 4 hebdos sur la présidence. Présidence 1, 2, 3, 4. C'était le mois de janvier. Ensuite, nous avons fait une pause pour le carnaval, en réfléchissant un petit peu avec vous à haute voix sur ce carnaval, sa signification, ce que nous avions tous vu dans ce carnaval, comme injonction de classe moyenne. Et puis, on a commencé avec les boules de l'État. Il y en a 5 au total. Les deux premières boules de l'État, c'était donc quels sont les termes de référence qui s'adressaient, quels étaient les termes de référence du président de la République et en quoi consiste cette présentation générale et le travail et le job du Premier ministre. En somme, quand on parle des boules de l'État, c'est-à-dire la mission de l'État, les grandes missions de l'État et leur forme, leur concrétisation en ministère, il y avait 10 grandes missions de l'État. Et les deux premières que nous avons abordées, donc, comme on l'a dit, c'était donc le président et le Premier ministre. Et nous avons interrogé le plus directement possible, le plus ouvertement possible, et cette articulation entre président et Premier ministre, et dire que c'était une proposition de la Constitution de 87, que de créer ce mode d'organisation, ce régime politique qui permettrait de contrôler toute tentative de présidence à vie, tout glissement vers cette présidence à vie qui était recherchée par la Constitution pour barrer la route à 30 ans de présidence à vie dans laquelle nous venions
de sortir.
Bon, alors les boules de l'État prises 3. Alors, fini avec les termes de référence du président et tout, nous avons deux grands champs. Les missions structurelles de l'État et les missions sectorielles de l'État. Les missions sectorielles que nous verrons la semaine prochaine et les missions structurelles qui sont d'une extrême importance. Et parce que ce sont les fondements de la démocratie et du développement. Et c'est de ça qu'on parle en disant que la Constitution de 87, en voulant... enlever le pouvoir des mains d'un petit groupe de ministres, d'un petit groupe de... Vous vous rappelez les 4 ou 5 ministres d'État qu'il y avait autour du Jean-Claudisme à la fin? La Constitution a fixé à 10 minimum le nombre de ministères. Et comme par hasard, alors là, ça, il faut au moins saluer ces constituants, comme par hasard, tous les travaux qui ont eu lieu ces 20 dernières années se sont tous étendus pour dire, bon, finalement, 10 ministères, 10 missions fondamentales de l'État, ça convient. Le chiffre proposé par le législateur et les chiffres proposés et des études, les travaux ont coïncidé. Il faut vraiment un minimum de 10 ministères, peut-être un maximum aussi de 10 grandes missions de l'État à vivre en tant que ministère. Donc, alors les missions structurelles, c'est ceux qui vont, là-dedans, s'occuper des vraies bases, c'est-à-dire... Et les flux économiques, les mailles, c'est-à-dire le territoire, et la justice. Et il y a le pays est constitué, on peut représenter le pays par les articulations entre ces trois boules, les qui se touchent, sont séquents. C'est-à-dire il y a d'une part un territoire, une maille, qui a couvert d'un ensemble de mailles, c'est-à-dire le territoire est maillé de départements, communes, arrondissements, etc. C'est ça sa maille, les différentes mailles, mais des mailles qui sont religieuses, des mailles qui sont métaphoriques aussi. On peut dire nord, sud, est, ouest, le nord qui se bat avec le sud, mais c'est une forme de découpage qui est métaphorique. Donc, les mailles, c'est le territoire du géographe. Hein. C'est le territoire de l'anthropologue aussi quelque part, mais c'est surtout le territoire du géographe qui, lui, travaille sur l'espace, c'est-à-dire sur le territoire, sur la maille. C'est un spécialiste de la maille. Il réfléchit sur ce découpage et l'articulation des différents mailles. Tandis qu'autre chose qui se passe, ce sont les flux dans cette territorialité. Les flux, c'est quand un produit sort d'un morceau de terre et arrive jusqu'à Port-au-Prince, il suit tout un circuit qui va passer par un marché primaire, un marché secondaire, un marché principal. Il va passer entre les mains de Madame Sarah, d'intermédiaire, de revendeuse, jusqu'à Port-au-Prince. Donc vous voyez, il y a du parcellaire agricole jusqu'à la table à Port-au-Prince, tout un cheminement que va suivre ce flux qu'est représenté par la banane, la figue, etc. Mais vous avez des flux complètement immatériels. Ce sont les capitaux qui vont circuler aussi, les finances. Vous avez des flux qui sont des ordres, des contre-ordres. Vous avez des flux qui sont d'ordre plus culturel, des influences musicales qui vont traverser, aller dans des coins. Donc, l'ensemble des flux, ça représente, si vous voulez, le champ de l'économique. L'économique a pour métier d'étudier ces flux et abstrait leur logique, leur rythme, leur carrefour, etc. C'est le job de l'économique. Donc la maille était donc la partie qui provenait des géographes. Et si vous continuez à regarder donc votre novellice et la troisième boule, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau, disons, avec la Constitution, c'est qu'il y avait une recommandation, il y avait une revendication de justice. Quand le duvaliérisme, la maison Duvalier s'est effondrée, en février 86, les grandes revendications populaires ont été chaque 4 ans pas gain doublé, et vous aviez eu un certain nombre de revendications de ce genre qui ont pris les murs. Ça signifiait quoi? Les gens, à défaut d'attendre immédiatement une grande transformation, voulaient qu'il y ait un minimum de justice, voulaient qu'il y ait la fin, si vous voulez, de l'arbitraire, la fin du macoutisme. Cette fin d'arbitraire, ils voulaient vivre dans un pays où on avait l'impression que les actes n'étaient pas impunis. Donc, il n'y avait plus cette capacité d'abus. Donc, c'était fin, ce besoin de justice, cette fin de justice, qui est un état régulateur. Et alors, au lieu des deux boules préalables qui représentaient toujours l'État, c'est-à-dire on avait toujours l'impression qu'il y avait l'économique et le politique, et puis c'est que tout l'État se déroulait dans une espèce de face-à-face et dans ses collés, je dirais, entre l'économique et le politique, là, ça devenait quelque chose de plus complexe à travers d'ailleurs la Constitution de 87. Elle devenait plus complexe en ce sens que, bon, il y avait une maille maintenant, un territoire pris en compte qui avait sa propre dynamique, l'économie qui avait sa propre dynamique, et puis la justice et l'État régulateur. Donc ce sont ces trois-là qui définissaient, qui ensemble, et se coupant ces trois boules, qui finissent par définir en quoi consiste le nouvel État haïtien et sa manière d'être géré à travers le prescrit de sa Constitution 87. Alors, un État politique, un État gestionnaire qui doit gérer le politique à travers une maille, un État économique, un État entrepreneur qui doit gérer à travers les flux, et puis un État régulateur qui est l'État de justice. Voilà. Donc de deux boules, on est passé à trois boules, et c'est ça, si vous voulez, le premier passage du binaire au ternaire, le premier grand saut que nous fait faire cette proposition de la Constitution de 87.
Mais la Constitution de 87, qui est très souvent décriée, mais pratiquement 20 ans plus tard, vous trouvez que ça avance, que nous sommes dans le bon sens, que nous mettons en application ce qu'on aurait dû mettre en application?
Écoutez, cette Constitution de 87 a des caractéristiques assez particulières. C'est une courte pointe, c'est un patchwork, c'est un montage d'un tas de parties collées côte à côte. Et il y a des emprunts à beaucoup de choses, mais disons que sur le plan des structures de l'État, en proposant qu'il y ait 10 grandes missions d'État à vivre en 10 grands ministères, ce qui n'a jamais d'ailleurs été mis en pratique, ce qui a été d'ailleurs le fait que ceci n'ait jamais été mis en pratique a été toujours la cause de l'échec de tous ces gouvernements à pouvoir faire chita la couleuvre, à pouvoir gérer. Mais il avait fait cette proposition de 10. Et cette proposition de 10, si ça avait été mis en pratique, si ça avait été respecté, si ça avait été, aurait été, si vous voulez, un pas en avant. Sauf qu'en 20 ans, il ne l'a jamais été.
Oui, mais on reproche aussi à cette constitution d'avoir inventé une machine très lourde.
Ah, la machine est lourde à plusieurs points, notamment dans le monde de la maille. C'est-à-dire, je sais toujours, et c'est ce que j'ai mis en exergue, je ne sais pas qui a pondu cette aberration de géographie dans la Constitution, mais il y a des lourdeurs incroyables au niveau, par exemple, de la gestion des 650 sections, anciennes sections rurales devenues des sections communales, c'est-à-dire la maille la plus fine qui était sous contrôle des anciens chefs de section. Eh bien, cette maille fine, on a mis des AZEC, des CASEC, des assemblées, des votés, etc. Je me demande si ceux qui ont produit cette cote de maille lancée sur la maille de base des sections rurales avaient jamais travaillé dans la section rurale, avaient jamais vu ce que c'était, avaient la moindre connaissance de ce que c'est que la dynamique géographique, la dynamique territoriale de ce pays. C'est-à-dire, on est dans un corset nettement trop compliqué pour être géré, et puis nettement trop cher aussi. C'est-à-dire cette infinité d'élections à avoir à ce niveau-là, qui est nettement plus simple. Enfin, il faut refaire, il y a des choses à faire, mais inutile de se compliquer et de complexifier quelque chose qui peut être simplement fait et efficacement fait. Et ce qui doit être fait, cette géographie n'a pas été aussi compliquée que le propose la Constitution de 87, qui sur ce point est une aberration totale.
Tout à fait. Bon, ça reprend surtout l'une des structures, c'est la démocratie que nous voulons installer. Mais vous dites aussi que l'une des missions structurelles de l'État, c'est le développement. Et plus bas, vous dénoncez, si je puis dire, la gouvernance qui se ramène à l'articulation simplifiée du politique et de l'économique. Vous frappez fort là sur les économistes.
Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il faut frapper fort sur les économistes. C'est-à-dire qu'il y a eu un captage de la dynamique structurelle du pays par ce face-à-face, mais que ça retrouve ailleurs. C'est-à-dire une discipline est devenue dominante, l'économie, et puis ils ont fait un captage, si vous voulez, entre le politique et l'économie, comme si gérer un pays n'était plus qu'une question de flux économique, de banque, de ci, de ça, sans prendre en considération d'autres dimensions, les deux autres dimensions qui étaient la maille, le territoire et la justice, par exemple. Alors, on a eu toujours l'impression que, une jactance très forte aussi, hein, quand un économiste parle, ça, hein, on l'entend passer, et puis les résultats ont été lamentables. Ça fait 50 ans que les économistes ont le haut du pouvoir depuis 1946, la fin de la dernière guerre, et puis nous assistons à des éconocides, littéralement. Le riz a disparu, le sucre a disparu, ils ont été à l'origine de tous ces massacres de la production haïtienne, donc le bon sens aurait contrôlé. Je sais pas, moi, le riz paye 40% de taxes dans un port voisin, chez nous, il paye pas de taxes, etc. Donc nous sommes dans des comportements d'extrême qui ont été la libéralisation, etc. Ensuite, les économistes, il faut le dire aussi, ont été les petits chiens de garde de la FMI, de la Banque mondiale. Alors quand il y a eu les grands thèmes, on l'a vu dans les hebdos, quand il y a eu les grands thèmes ajustement structurel, nous sommes tous partis vers l'ajustement structurel. Ensuite, a dit non, ce n'est plus l'ajustement structurel, c'est maintenant le DSRP, là. Enfin, c'est le développement, c'est la pauvreté. Nous sommes tous partis vers la pauvreté, alors qu'en fait, nous sommes dans un cas de misère. L'expression même de pauvreté ne colle pas à notre réalité. Si nous l'utilisons, nous nous scions les bras pour un développement quelconque. Mais on continue à l'utiliser, c'est pas grave. Mais
qu'est-ce que vous proposez?
Ah non, la misère. Appelez la misère, appelez la pauvreté.
Quelle est la différence?
Elle est très grande. La pauvreté est un état dans lequel se retrouve simplement 5% de la population haïtienne, et sur les 100%. Ces 5% sont un état de, disons, du nécessaire, pas du superflu, et que la pauvreté, c'est quand même un revenu de l'ordre de 15 000 gourdes ou plus par année, et qui est beaucoup plus, qui permet juste le nécessaire d'envoyer à l'école, de manger, et d'avoir surtout, c'est pas une question économique, et d'avoir surtout la capacité de saisir les opportunités, de s'ouvrir, d'avancer, etc. La pauvreté a toujours été quelque chose de digne, on l'a rendu indigne, mais la pauvreté était quelque chose de digne, qui était un état, qui a toujours été l'état de l'homme en situation depuis des millénaires. C'est-à-dire tout le monde était pauvre, c'est-à-dire on avait juste le nécessaire, on mangeait dans, et puis on saisissait les opportunités, on avançait et tout. On s'est mis à appeler pauvreté maintenant, dans les pays développés, l'état le plus bas peut-être, mais nous autres, en dessous de la pauvreté, nous avons plus de 85% de la population, très en dessous de ça. Et si nous reprenons les graphiques qui ont été justement publiés dans les hebdos, on se rend compte qu'à 5 000 gourdes, misère et indigence qui est en dessous de la pauvreté sont beaucoup plus graves. Donc, si vous voulez, c'est plus que ça. C'est qu'on revient maintenant à une contestation internationale où les gens se refont l'éloge de la pauvreté en disant, écoutez, vous êtes en train de massacrer la moitié, trois quarts de l'humanité en proposant la pauvreté comme concept. Comme concept, je dirais, vulgaire, le plus terrible. Et puis, se rendant compte de la catastrophe, ils ne savent pas changer de pauvreté. Ils mettent maintenant extrême pauvreté, pauvreté profonde, pauvreté. Ils mettent un tas d'épithètes à pauvreté, rien que pour qualifier jusqu'au moment où on tombe dans la misère. Si nous faisons la distinction entre misère qui est abjecte et qu'il faut rejeter, et la pauvreté qui offre des possibilités très grandes, notamment le Amartya Sen avec Flaubert, etc., tous ceux qui ont travaillé sur la pauvreté, eh bien, on peut se rendre quelque part. Or, pour revenir aux économistes, c'est ça aussi. C'est-à-dire, les économistes ont géré, si vous voulez, ce face-à-face avec la politique et ils n'ont pas pu délivrer les autres dimensions qui étaient la maille, par exemple la maille, c'est-à-dire l'émigration des Haïtiens, la constitution de la carte maîtresse, les 15 millions d'Haïtiens. Dans le monde, les Haïtiens, etc., les économistes ne sont pas penchés sur ceci, ni pour la justice régulatrice. Donc, ce qui fait qu'en 86... on s'est retrouvé dans un face-à-face politique et économique, mais où le territorial et la justice n'y étaient pas, il y avait deux boules manquantes. Et ce sont là, maintenant, le retour, si vous voulez, à la réintroduction de l'ensemble de ces dimensions. Les trois boules constituent un espèce d'équilibre, certes, l'économique doit réfléchir un peu, mais souvent les problèmes sont au niveau de la maille. Les problèmes actuels sont plus du niveau de la maille que du niveau de l'économique. Le problème de la faim, c'est plus du niveau de la maille que de l'économique. Le problème de la nouvelle Haïti qu'il faut définir en tant qu'un ensemble regroupant 15 millions d'individus, dont 10 millions au pays et 5 millions à l'extérieur, c'est plus du problème de la maille que du problème de l'économique. Même s'il y a 2 milliards de transferts. Donc, ouais, donc, il y a une dynamique. Et le respect de la justice. La justice. Que demandent les gens là, dans la rue? C'est la justice. Ils savent bien qu'ils ne vont pas devenir riches du jour au lendemain, mais ils ne veulent pas mourir de faim. Il y a une justice économique. Il y a une justice sociale. Ils ne veulent plus vivre dans une situation d'abus. On peut être dans une situation très grave de pauvreté, mais avec le respect, la dignité, l'absence d'abus, l'absence du, ce qu'on va appeler le macoutisme, c'est-à-dire cette violation systématique des droits humains. Donc, refus de ceci.
Avant d'aller vers la justice, restons un peu à ce que vous venez de dire en ce qui concerne les économistes. Il n'y a pas beaucoup de travaux, les travaux ne sont pas très pointus, vous le dites vous-même, nous sommes toujours prêts à monter sur le cheval à la mode, sur les théorie à la mode, et pourtant, ils finissent par convaincre. À chaque fois, on a l'impression que tout le monde est prêt à suivre un économiste, à suivre ses recommandations, même si ses prévisions ne seront pas, enfin, sont rarement...
On s'est beaucoup planté aussi en suivant. C'est-à-dire, on a suivi la FMI qui a donné ses ordres quand c'était l'ajustement structurel, tout le monde devait danser sous le pied de l'ajustement structurel, et puis... libéraliser au maximum et puis massacrer sa production nationale au nom de ce libéralisme et cet ajustement structurel. Ensuite, les analystes sont arrivés, ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés largement dans cet ajustement structurel. Alors, on dit maintenant, et DACP, c'est-à-dire on va se battre contre la pauvreté, mais au lieu de travailler contre la misère, on travaille sur la pauvreté, donc on vous casse les ailes avant même de commencer à travailler dessus. Tôt ou tard, c'était dans ce sens qu'un jour, on avait fait un hebdo pour dire, voilà la lettre que devait écrire le président de la République au directeur du FMI. C'est-à-dire dire, non, nous ne marchons pas, il y a quelque chose d'autre qui est en marche dans le monde actuellement, et puis il y a des travaux là-dessus, et on s'en va vers une autre perception de cette manière d'avancer. Mais on a toujours l'impression que ceci va revenir à quelque chose de plus profond. C'est-à-dire, c'est la redéfinition dans cette nouvelle Haïti qui est en train de nous arriver là actuellement. Parce que nous avons une nouvelle Haïti, avec une géographie nouvelle, avec une économie nouvelle, avec une sociologie nouvelle. Cette nouvelle Haïti qui nous a poussé entre les mains là, ces 5-10 dernières années, a des préoccupations, a des caractéristiques totalement différentes. Donc elle va poser ses problèmes en d'autres termes. Et il va falloir respecter cette dynamique. Alors, la définition, au cœur de tout ceci, il y a la définition du blanc. C'est quoi le rapport de l'Haïtien au blanc? Blanc dans le sens où nous utilisons blanc en Haïti, hein, c'est-à-dire qu'il soit africain, asiatique,
oui,
haïtien,
il n'est pas haïtien,
le blanc. Bon. Eh bien, le blanc n'est plus un facteur économique, puisque les 2 milliards d'argent, les 2 milliards qui nous arrivent de la diaspora, par année, cette année, sont plus importants. Il faudrait que l'économie les économistes réfléchissent beaucoup plus comment semer ce 2 milliards pour qu'il devienne du capital accumulé que de continuer à baver sur un tas de théories qui ne tiennent pas compte de ces transferts. Quand donc va-t-on avoir une préoccupation ? Ah oui, je verrai beaucoup de colloques sur ce transfert, sur l'analyse de ce transfert, sur l'articulation de ce transfert, sur la manière de semer ce transfert, sur la manière de ne pas le laisser récupérer immédiatement par tout un mécanisme économique qui vous pique ce transfert, et, ou bien qui crée des coûts absolument démesurés, par exemple dans l'enseignement. On demande maintenant d'envoyer n'importe quel enfant dans n'importe quelle école assez moyenne à Port-au-Prince et qui vaut presque un investissement d'une université américaine. Donc, ce n'est pas possible. Le rapport de ces 40, 50, 60% que ça va coûter aux parents. Non, de redéfinir le blanc. Le blanc n'est plus un facteur économique en Haïti, c'est clair, mais c'est un facteur de relations publiques. Il faut redéfinir ce rapport. Et quand on a 2 milliards qui nous arrivent de la diaspora et seulement 200 millions qui nous arrivent de la communauté internationale chaque année, que la diaspora représente 10 fois plus d'investissements que ce que représente, il faut changer sa définition. La relation au blanc devrait devenir, dans son évolution, une relation de relations publiques. On a absolument besoin du FMI, on a absolument besoin du bilatéral et du multilatéral, non pas pour des questions d'argent, de toute façon, ce n'est pas décaissé. Ce sont des promesses qui ne sont pas décaissées. Il y a 14 étapes, je crois, pour décaisser un argent. Et le ministère du Plan avait sorti un texte hier récemment, il y a 8 mois, qui disait les 14 stations du chemin de croix pour sortir l'argent. Bon, je suppose que c'est le rédacteur du ministère qui avait fait ça, avec raison. C'est-à-dire qu'un chemin de croix pour déplacer de l'argent. Donc ce n'est pas une question d'argent, le blanc. Mais il te fait ta réputation. Et là, nous avons besoin d'une bonne réputation. Dans la responsabilité de la tâche de président aussi, il y a la souveraineté, mais il y a aussi c'est les relations publiques du pays. Nous avons besoin d'une bonne relation, nous avons besoin d'une bonne image qui va créer, si vous voulez, ce mouvement que nous recherchons. Le blanc n'est plus qu'un problème de relations publiques et non plus un problème économique. À ce moment-là, sortons-le du mi-temps de tout ce qu'on fait, mettons-le à la place qui doit être la sienne, c'est-à-dire quelqu'un que l'on soigne, que l'on traite, que l'on négocie, avec lequel on avance, parce que c'est des relations publiques, et non plus une question de survie pour nous. Cet argent, ce n'est pas là que l'on fait notre argent. Notre argent vient d'une autre source, c'est notre population qui produit notre argent et nous l'envoie pour le moment par transfert, comme la paysannerie nous transférait aussi des sommes de manière immonde d'ailleurs, transférait aussi des sommes immenses qui étaient prélevées sur elle pour faire marcher l'économie. Ce n'est plus la paysannerie qui fournit ça, maintenant c'est la diaspora qui le fournit. Mais quand la diaspora ne le fournira pas, croyez-moi, on va trouver autre chose pour qui va le prouver.
Georges Anglade, vous le dites, et ce n'est pas la première fois que vous avez ce discours, mais en même temps, quand on regarde ce que l'État, ce que les trois boules de l'État font de cette diaspora qui nous enrichit et qui nous entretient, on voit que définitivement, ce n'est pas quelque chose ou bien que nous avons compris ou bien que nous estimons.
Eh bien, c'est ça l'un des gros problèmes. C'est que, et je vais sauter immédiatement à l'exemple des élections américaines. Qu'est-ce que nous avons actuellement dans les élections américaines ? Quelque chose de bien précis. Ce sont des issues, c'est-à-dire un ensemble d'enjeux qui sont traités par l'équipe Obama, par exemple, contre l'équipe Clinton. Quels sont les enjeux d'une société ? En quels termes va-t-on travailler ses expectatives et ses chantiers ? Et vous sentez bien que vient faire un candidat à la présidence des États-Unis ? Il vient dire, mais voilà quelles sont les expectatives et les chantiers que je vais monter pour répondre aux besoins que j'ai. La diaspora et versus la Constitution et la diaspora, au fond, il y a deux grandes expectatives qui sont de la responsabilité d'un président d'Haïti, c'est-à-dire sa fonction de souveraineté et de relations publiques, qui sont dans la Constitution définies comme étant ses termes de référence, son contrat de travail, s'il avait un contrat de travail impertinent à signer, c'est ce contrat de travail qu'il devrait signer. Il a donc souveraineté et relations publiques. Et le premier point serait, à l'interne, travailler sur PNH versus FADH, c'est-à-dire le premier point sur lequel s'expriment en campagne les gens, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Police nationale, ancienne FAD, ancienne armée. Il y a là un enjeu, il y a là une expectative et un chantier qu'il faut clairement traiter, une issue, c'est ça. Et que dit Obama ? Voilà Dans cette... Voilà les choses. C'est-à-dire que voilà, en ce point précis de la souveraineté, voilà le point précis sur lequel le peuple entend et le peuple vote. C'est parce que la culture économique, la culture scientifique, la culture politique américaine s'est rendue jusqu'au point où il pose la question fondamentale. Ce n'est même pas l'analyse scientifique la meilleure. Non, c'est le mot que le peuple veut entendre, le peuple voteur. Il dit, bon, ah, le président va travailler et puis va me proposer des réponses sur police, armée. Qu'est-ce qu'on fait ? Clairement. Alors quelqu'un dit, je veux le retour de l'armée. L'autre dit, non, je veux pas. Voilà comment je vais appuyer la police nationale. Voilà une chose. Deuxième tâche de ce président, qui est dans sa partie d'externalité, de diplomatie, c'est constitution diaspora. Que de rentrer quand maîtresse et tout ce qu'on veut, c'est la constitution et la diaspora. Deuxième tâche, qu'est-ce qu'il a à dire face à cette force que représente la diaspora, cette nouvelle Haïti constituée par intérieur et extérieur, que va-t-il advenir et quelle est sa place dans la Constitution ? Parce qu'on ne va pas laisser quand même les choses continuer à traîner. On est rendu quoi ? 40 membres des chambres, ministres et autres gradés qui ont eu deux passeports, qui en ont eu un après l'autre, qui ont eu... Bon, si on rentre même dans ceux qui ont des enfants américains, des enfants canadiens, des enfants... Ben alors là, vraiment, on est rendu à 80%.
En réalité, nous sommes une société multinationale.
Mais nous sommes une ouverture. Nous ne sommes plus des sédentaires, mais des nomades. Nous n'avons plus un territoire fixe, mais nous avons une drive, c'est-à-dire un espace où l'on se promène de l'un à l'autre, où nous avons la descente chez des cousins, de Miami, Boston, New York, Montréal, etc., où ils ont la descente chez nous à Port-au-Prince. Donc, nous sommes sortis du sédentarisme pour passer au nomadisme. On ne peut pas continuer à appliquer des règles de sédentarisme à des nomades. Ça ne s'est jamais vu. Donc, on est devenus des nomades. Alors maintenant, comment fait-on une constitution pour nomades ? On ne va pas subitement
bon,
dire...
Bon, et puis là, tu sais, qui est haïtien ?
Voilà. Oui.
Bon, est-ce que c'est celui qui parle créole ? Est-ce que c'est celui qui est né en Haïti ? Est-ce que c'est celui qui a eu des parents haïtiens ? C'est un article définitivement qui pose problème.
Oui, qui doit être absolument revu. Donc, voilà, en termes haïtiens, ce que seraient les issues du président s'il était en compétition politique américaine actuelle. Voilà les deux points sur lesquels il allait, dans sa job de président souveraineté et public relations, voilà les deux points qui auraient été les deux points sur lesquels il aurait dû répondre. Alors, c'est ce qu'a fait Obama, tout simplement. C'est ce que tentent de faire tous les candidats.
Mais en Haïti,
à la présidence.
Les promesses sont, semble-t-il, chères, parce qu'on peut arriver président sans promesse, sans rien promettre.
Bon, ceci a déjà été possible, ceci a déjà été vu, et ceci s'est fait aussi aux États-Unis, où les gens sont arrivés sur des profils sans trop dire ce qu'ils allaient faire, etc. Mais il y a un grand changement. Haïti a changé à 180 degrés. L'Haïti d'il y a 10 ans n'est absolument pas l'Haïti de maintenant. Il y a eu vraiment le passage d'une chenille au papillon. Mais les États-Unis ont changé aussi. Les États-Unis ont tellement changé que, par exemple, la question de couleur se pose en des termes totalement différents. Comme la question de couleur ne se pose absolument pas de la même façon dans la diaspora haïtienne encore. C'est fini. Et soit noir, mulatte, etc. Non, la deuxième génération est vert, rouge, jaune, bleu, mélangée avec du mauve, du vert, du jaune marié, allemand, africain, asiatique, etc. Vous n'avez plus cet affrontement mulatte-noir, etc., qui aurait traversé. Vous avez une autre dynamique qui est en cours. Oh, c'est pas étonnant que les États-Unis changent aussi et que Obama n'est plus un noir. Obama est un candidat à la présidence qui va leur ouvrir le dernier grand territoire où il n'avait jamais pu rentrer, la dernière frontière économique à conquérir par les États-Unis, qu'est l'Afrique, contre l'Europe et contre l'Asie. C'est Obama qui va leur permettre de mettre le pied là-dedans. Et toute l'Amérique se mettra derrière Obama si c'est ça qu'il peut offrir. S'ils ne se mettront pas, on verra bien. Ok, donc c'est l'issue d'Obama, l'expectative d'Obama, la promesse d'Obama quand il analyse l'Afrique. C'est ça qu'il analyse. Et c'est ce qu'entendent les gens aussi. Bon, voilà. Donc, on revient à nos missions structurelles et de dire que vous voyez les questions de la diaspora. Mais c'est un enjeu. Alors, la prochaine, on est dans le compte à rebours vers 2011 et je crois que sur le modèle de ce qui s'est passé aux États-Unis, il y a eu un grand changement. Et les issues aux États-Unis, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a 5 millions d'Haïtiens à l'extérieur qui ne pensent qu'aux issues maintenant, qui vont sur le web voir qu'est-ce qu'Obama a écrit sur la sexualité, les cellules, les homosexuels, l'Afrique, le noir, le blanc, le Klux Klan, les différentes expectatives, eh bien, il va demander ses expectatives en Haïti. Et notre tâche de réflexion, ne serait-ce qu'au Nouvelis, c'est d'aboutir, et ce sera ça d'ailleurs les boules de l'État prise 5, quelles sont les expectatives et les chantiers pour Haïti, quelles sont les issues, quels sont les grands points sur lesquels il nous faut réfléchir, il nous faut avoir des propositions, mais toujours les points formulés tels que la population peut les entendre. Il ne s'agit pas de formuler la question de l'armée et de, par exemple, de la police nationale en des termes que les gens ne saisissent pas, parce que ce n'est pas porteur du point de vue électoral. Il faut le dire en les termes où les gens comprennent ce qu'ils veulent entendre. Donc, il faut le mettre en termes électoral, en termes dans le langage et le vocabulaire de la population. Et c'est ça, une des grandes nouveautés aussi que nous a appris cette campagne américaine, c'est qu'on sait très bien que Yale est derrière les Clinton, Harvard, derrière Obama, etc., tout ce que vous voulez, mais c'est que les gens travaillent très, très, très fort pour trouver la manière de trouver le slogan, l'expression, la formule, qui est celle de l'homme de la rue. Quand le type parle à sa femme, il dit, mon cher, dans cette histoire de PNH versus FADH, ma position, over my dead body, le FADH ne passera pas. Tu vois, donc, il faut qu'il puisse le dire en des termes qui lui soient personnels. Toute cette histoire de diaspora intérieure, si on a 2 milliards qui nous arrivent, si toute l'information est là, si les classes moyennes qui sont en train de se développer ont eu leur impulsion à l'extérieur et leur retombée à l'interne, eh bien, il faut que cette chose-là, que cette expectative-là, que ce chantier-là, il faut que la Constitution, la prochaine, m'ouvre sur la diaspora. Voilà.
Georges Anglade, il nous faut prendre une pause publicitaire, mais nous allons revenir encore avec la diaspora dans quelques minutes. Chers auditeurs, à tout à l'heure.